Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez aussi écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, l'interview se passe au Théâtre de Die et nous sommes en compagnie de Camille Boitel, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Et de Pascal Lecor, bonjour.
Bonjour.
Tous deux, vous êtes ici pour nous parler d'un spectacle que vous donnerez donc ce mercredi 15 janvier au théâtre donc, et qui s'intitule Jubilation. Alors Jubilation, cela amène quelle idée ?
Alors ben, justement, la jubilation a été assez mal comprise. C'est-à-dire c'est à la fois une chose dont tout le monde parle, que tout le monde cherche en quelque sorte et en même temps qui est assez peu réfléchie. C'est comme si c'était une chose qui était restée un peu sauvage, en marge, et donc là on va essayer de s'occuper principalement de décortiquer, d'ouvrir le ventre à la jubilation. Donc c'est vraiment une recherche profonde de ce qu'est la jubilation et ce qu'elle implique et qu'est-ce qu'elle a.
Jubilation, c'est synonyme de joie.
Alors c'est un peu plus que la joie, parce que la joie, bon, ben voilà, on la connaît à peu près, celle-là elle est beaucoup plus étudiée, la joie c'est une chose qui est intégrée socialement, la jubilation c'est plus compliqué, elle gêne un petit peu, elle est un peu en trop, la jubilation c'est ce qui déborde de la joie, c'est ce qui va commencer à éclater, donc comme elle est éclatante, elle est plus compliquée à mettre dans une case, donc en fait la jubilation elle n'a pas beaucoup de place socialement, en fait les gens qui jubilent trop, ils sont un peu considérés comme des gens à part, on ne sait pas trop quoi en faire, ils sont un peu incontrôlables.
À ne pas confondre avec le jubilé de la reine d'Angleterre, par exemple.
Voilà, il y a le jubilé de la reine d'Angleterre, il y a aussi une autre jubilation religieuse qui vient de l'hébreu Yobel, qui signifie la trompe, le corps qui annonçait la fête. Mais alors ça, c'est encore un autre, mais il y a peut-être des connexions quand même.
Jubilation, donc une création de la compagnie Les Médias, une compagnie qui existe depuis combien de temps ?
Alors, la compagnie, elle existe depuis qu'elle a fait un spectacle qui s'appelait L'Immédiat. Donc, elle a pris le nom du spectacle. Et ça, c'était en 2009 que s'est créé ce spectacle, L'Immédiat, qui a tourné pendant très très longtemps. Et donc, ça nous a un peu donné cette identité. C'était un spectacle qui, au début, ne devait pas avoir de nom. Mais le nom qui est resté un peu... Enfin, l'étude était autour justement de l'instant et de l'insaisissable de L'Immédiat, qui est un autre genre de jubilation potentielle. Qui peut aussi être terrorisant, mais qui peut aussi être jubilatoire. Et puis en fait, la compagnie, avant, elle avait déjà un peu une préexistence, avant d'avoir un nom, parce que moi, j'ai fait des spectacles depuis 2002. Et en fait, le premier spectacle, L'Homme de Huss, maintenant, il est intégré à la compagnie, donc on pourrait dire que c'est une très vieille compagnie depuis 2002.
Cette compagnie donc, de L'Immédiat, c'est une idée qui a réuni combien de comédiens ou d'artistes autour ?
En fait, c'est savoir combien de comédiens y ont survécu. C'est une compagnie qui était vraiment, comme son nom l'indique, liée à une sorte d'instantanéité, une sorte de désir d'être toujours au début de quelque chose. Donc il n'y a jamais eu le confort d'une compagnie. C'est comme si on a fait un premier spectacle et puis après on a refait un premier spectacle et puis là on vient de refaire un premier spectacle. Donc c'est vraiment une jeune compagnie mais depuis longtemps. Et donc qui est un peu comme sous pression d'une précarité semi-volontaire. On ne sait pas trop si c'est parce qu'on veut rester précaire ou si c'est parce qu'on n'a pas le choix, parce que les œuvres en fait, sont tellement importantes pour nous qu'en fait on n'arrive jamais à faire une chose qui soit sûre d'elle-même. Donc on arrive toujours par accident jusqu'au public et puis ça se passe quand même plutôt pas mal, mais ou très mal selon des points de vue. Ça dépend aussi des œuvres. Mais en tout cas, c'est jamais entre deux. C'est soit c'est vraiment catastrophique, soit c'est vraiment catastrophique, dans le bon sens du terme.
Oui, je vais répondre à la question que vous alliez justement me poser, donc je me suis permis de vous couper. Moi, je suis rentré en 2009. Je ne sais pas si... Oui, tenir le coup. Je ne sais pas si je vais rejoindre une... J'entends des gens près du théâtre. Il y a une sorte de bande de joyeuses personnes qui jouent à la pétanque et qui boivent de la bière. Et à un moment donné, moi, Adi, ce que j'aime beaucoup, c'est le soleil. Et à un moment donné, je suis sorti pour me nourrir un peu de ce soleil. Et il y a un monsieur qui me dit bonjour en jouant à la pétanque. Et j'ai dit, ah oui, j'aime bien ce soleil. Et puis il me dit surtout, il n'y a pas de vent. J'ai trouvé ça très beau.
C'est un paysage ici où le vent, malgré tout, certaines personnes âgées disent qu'il y en a plus qu'avant.
De quoi ?
Du vent.
Il y a plus de vent qu'avant.
Le vent arrive.
Mais le soleil est toujours là.
Oui. Oui.
Donc Pascal, lui, il a tenu, mais il est devenu une sorte d'icône de l'immédiat.
C'est ça que je voulais de tenir, voilà. Je suis un petit peu fatigué, je l'avoue. Mais
il a joué un grand nombre de personnages différents dans le spectacle. Il est plein de personnes et il a été dans presque toutes les pièces de l'immédiat, en fait, au moins par passage. Donc il est assez iconographique de cette compagnie, finalement, aujourd'hui.
Oui, c'est un petit peu exagéré, comme exagèrent beaucoup de gens qui sont interviewés. C'est un peu comme le silence qu'il a fallu imposer lorsque vous êtes arrivé. Il a fallu arrêter le frigo qui contient beaucoup de clairettes de Die, de créments de Die. Je dis ça juste comme un symbole. Toutes ces bouteilles ne seront plus adéquates, enfin prêtes à être bu. De toute façon, on ne les boit pas. Hein. C'est juste des symboles. Comment expliquer Donc moi, je suis un invité dans cette pièce. Je suis juste un invité pour parler de la jubilation, où j'espère pouvoir répondre. Je me souviens, au début de cette pièce, j'avais donc donné... Enfin, il fallait une veste. La veste, et je me suis aperçu que j'ai encore le pantalon, donc ça fait 5-6 ans depuis que cette pièce, depuis la création de cette pièce, qui n'arrête pas d'évoluer, de changer, et je me suis aperçu que j'avais encore le pantalon, parce que le pantalon, je ne le mets pas dans cette pièce, mais je mets la veste, et je mets le pantalon juste comme un pantalon de travail. Et ben, c'est juste pour constater que j'ai l'ensemble sur moi, exceptionnellement. Mais c'est vrai ce que je vous dis.
Mais en fait, c'est intéressant parce que ceux qui vont voir la pièce, ils comprendront exactement ce qu'il est en train de dire au moment où ils vont le voir. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui peuvent parler de la jubilation, mais peu qui osent en parler. Et donc, on a demandé à Pascal de venir, d'être un de nos invités pour essayer de décortiquer ce que c'est que la jubilation.
C'est un spectacle où il y a plusieurs comédiens, il me semble, non ?
Alors, il y en a beaucoup. Mais après, ils sont parfois contenus dans peu de monde. Mais il y a beaucoup, effectivement, on sent qu'il y en a énormément, mais ils sont un peu enfermés à l'intérieur de peu de gens.
Comment sont présentés justement ces différents personnages pendant le spectacle ? Par leur nom ou alors une tenue ou un aspect ?
Par leur physique, leur corps, leur métier, leur expression, leur voix. Mais vous savez, ça va dépendre aussi des gens qui viennent nous voir, donc du lieu aussi, du soir. Je ne sais pas si ici, parfois, il y a des tempêtes ou du vent, comme vous dites. Voilà. Ouais. Et après, ça dépend du meneur, de celui qui nous... Comme vous le savez, aujourd'hui, dans notre époque actuelle, je vois pas forcément... Il n'y a pas qu'à la télé, il y a les meneurs, ceux qui interviewent, ne se comportent pas de la même façon qu'il y a 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il suffit de se souvenir des premières émissions de télévision en noir et blanc dans les années 50, 60. Je dis ça pour une autre raison plus personnelle... Car j'ai fait des recherches, j'ai enfin pu trouver par exemple un film qui s'appelle Fils de personne, qui était une adaptation de 1953, en fait, d'Henri de Monterland. Il y a eu beaucoup d'adaptations jouées par, j'ai oublié son nom, Pierre Dux, un comédien sociétaire de la Comédie-Française, avec alors, une femme aussi.
Moi, je fais une sorte de traduction en simultané. Vas-y, continue, je t'en prie.
Et puis, il y a juste un adolescent
donc, en fait,
de
12-13 ans. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'intérêt de ce film, c'est qu'il a tout à fait disparu. Et en fait, l'autre intérêt, c'est que c'est le seul rôle qu'avait fait mon père. Et on essayait de retrouver des traces. Voilà, il avait réussi à faire un rôle à 14 ans sans le dire à ses parents jusqu'au dernier moment. Et donc, voilà, on est en train de rechercher ce film qui n'avait eu aucun succès, je pense. Donc, on ne sait pas si on retrouvera la trace de ce film. C'est pour ça qu'il en parle, je pense.
J'en profite de la radio parce qu'elle permet parfois de dire des choses qu'on ne dit pas. Mais en fait, je l'ai retrouvé hier soir. Je peux vous le dire à monsieur Camille Boitel. Je l'ai parcouru, je n'ai pas tout vu. Je me suis un peu couché tard. C'est grâce d'ailleurs à sa mère que je l'ai pu le retrouver. Simplement par la date, 1953. Et en fait, j'avais lu cette pièce de théâtre. Très peu de gens lisent d'ailleurs de Monterland. Hein. C'est, bon, il a écrit beaucoup de pièces, c'est plus du tout connu maintenant. Mais j'avais lu cette pièce. En fait, je me rappelle de cette histoire d'un père, d'une mère et de l'enfant qui se passe pendant l'occupation. Alors, c'est un peu vieilli, il faut une explication, mais en cliquant tout simplement « fils de personne », parce qu'on l'avait fait, et ça ne donnait rien du tout, mais de cliquer 1953 « fils de personne » et Henri de Monterland, je plaffe. Vu par 150 personnes, plaf, et il y a marqué effectivement Patrick Boitel, son père.
Voilà, mais ça n'a absolument aucun rapport avec la jubilation, voire bien qu'il y ait une toute petite anecdote sur mon père, mais c'est plutôt sur la fin de sa vie. Voilà.
Ceci dit, moi tout seul dans ma chambre, j'ai jubilé, bien sûr.
Le premier spectacle de la compagnie qui s'appelait L'Immédiat, je crois, que j'avais eu la chance de voir à la Villette, alors je crois que c'était en 2009 ou 2010. Est-ce que c'est un peu l'identité de la compagnie? Je me souviens de ce spectacle parce que, à mes yeux, il était rempli de maladresse, où tout tombait, rien ne tenait. Est-ce que c'est un bazar artificiel?
Mais en fait, c'est très intéressant par rapport à la jubilation parce que l'accident sur la scène est extrêmement jubilatoire pour les gens. Mais nous, quand on a voulu parler de l'accident, au début, on voulait parler vraiment d'un monde qui n'aurait aucune règle. Donc, on a vécu l'accident directement en le présentant aux spectateurs. Et en fait, l'accident, on parlait mal de l'accident. C'était plutôt un peu moins fort que ce que ça aurait dû. Donc, il y avait des moments forts, puis des moments qui n'étaient pas forts. Et finalement, c'était en réécrivant l'accident, en le suivant et en le réécrivant et en le précisant à l'extrême, qu'on a fini par réussir à le raconter, alors qu'effectivement, s'il n'y avait plus grand-chose de vraiment accidentel, il y avait toujours des petites surprises, mais il n'y avait plus de ces vrais accidents. Et c'est eux qui en parlaient le mieux. Donc c'était assez troublant par rapport à la scène qui est capable de raconter les choses les pires et puis de donner une espèce de joie de tout ce qu'on voudrait pas vivre dans la vie, mais sur la scène d'un seul coup ça a une sorte de force et ça crée une forme de jubilation. Donc L'Immédiat, c'était vraiment pour moi un spectacle qui avait quelque chose de jubilatoire. J'ai un souvenir d'une représentation où il y avait des rires que j'avais jamais entendus de toute ma vie nulle part, des salves de rires qui n'arrêtaient plus, qui se diffusaient dans toute la salle, et ça continuait, et il y avait des gens qui pleuraient de rire. Et cette sensation là elle est assez rare, et je pense que les gens de la scène, ils peuvent connaître cette chose là et c'est moi ce que j'appelle aussi la jubilation. C'est aussi cette chose qu'on a sur scène et qui n'existe dans la vie que rarement, mais qui peut se reproduire et réavoir lieu sur la scène, comme pas de manière artificielle, parce que si c'est faux, ça n'a pas lieu, mais de manière un peu comme la magie. On sent bien qu'il y a un truc, mais on ne sait pas trop ce que c'est.
La compagnie Les Médias, c'est combien de spectacles depuis son existence, depuis sa création?
En fait, L'Immédiat, c'est une compagnie qui accumule les œuvres et surtout qui les peaufine sans jamais s'arrêter. C'est-à-dire que la jubilation, elle se peaufine depuis très longtemps, elle va continuer à se peaufiner. Là, par exemple, on est en résidence ici à Die, parce que c'est encore la création de ce spectacle, alors qu'il a effectivement des années derrière lui. Il s'est répété avec le public, dans le public, il s'est écrit avec les spectateurs, et donc aujourd'hui, il y a énormément d'œuvres, parfois très courtes, parfois plus longues, qui continuent à se jouer, qui continuent à se travailler. On a fait un site internet et on a recensé un peu les œuvres qu'on avait, qui étaient dans la compagnie. On s'apercevait qu'il y en avait beaucoup. Je dirais une quinzaine d'œuvres qui continuent à être vivantes.
Elles sont en quelque sorte toujours en chantier.
Il y a l'idée, en tout cas, que elles ne sont pas au rythme de l'extérieur, elles sont au rythme d'elles-mêmes. Donc si jamais à un moment elles ont un potentiel encore, elles ne vont pas s'arrêter de se développer. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça d'un peu effrayant pour toute personne qui voudrait essayer de nous mettre dans une case, c'est-à-dire que en fait on pourrait se dire tiens cette œuvre-là ben, elle marche bien, pourquoi continuer? L'immédiat par exemple ça a très bien marché, ça a tourné pendant 6 ans, on a essayé de l'arrêter, moi j'ai voulu l'arrêter, j'ai mis 2 ans à y arriver parce qu'on avait encore des propositions et que c'était formidable, on est parti en Alaska avec l'immédiat à la toute fin, on n'a pas pu dire non. Et puis en fait, là, on va reprendre l'immédiat pour le pousser plus loin. Il y a toujours cette idée que tant que l'œuvre, elle peut continuer à être meilleure, à être plus fine, on va continuer à rentrer dedans. Donc c'est un peu infini.
Pascal Lecor, votre venue dans la compagnie est-elle depuis le début de celle-ci ?
Non, c'est précisément 2009, juin 2009, donc pour l'immédiat. L'immédiat avait déjà commencé, mais je suis arrivé entre deux, quoi. Ceci dit, on s'est juste rencontré dans un stage, un rare stage qu'organise Camille Boitel. Quoi qu'il il organise un autre, un prochain, par l'association Chantier Nomade. On s'est rencontrés donc à ce stage, après du temps à passer, puis après il y a une sorte de rencontre dans un spectacle où on s'est changé le numéro de téléphone. Je lui ai écrit, il m'a écrit. On s'écrit beaucoup dans la compagnie. Et après on a fait un essai à Marseille. Et là je suis rentré dans la compagnie.
Ce qui était joli, c'est qu'en fait, le premier stage, donc Pascal, il prenait ce stage. Et en fait, quand les stagiaires sont arrivés, il ne savait pas qui était l'organisation, enfin, qui était la personne, l'encadrant du stage. En fait, il était fondu aux autres. On ne savait pas qui était, qui donnait le stage et qui le prenait. Et donc, pendant 3 jours, c'était un flou extrême. Et nous, on s'était cachés, on s'était mêlés aux stagiaires. Donc c'était un stage très particulier. Et Pascal, on l'avait remarqué parce qu'il avait une espèce de fougue incroyable. Et en fait, tout le monde le trouvait bizarre autour. Et en fait, donc il était un peu, voilà, Pascal, il était comme un peu suspecté, parce que c'est vrai que c'est un animal de scène, donc dans la vie, il a quelque chose d'étrange pour beaucoup de gens. Et puis en fait, en travaillant avec lui, on s'est dit, ben en fait, non, pas du tout, il est complètement investi, c'est juste qu'il est vraiment consacré à l'art, donc il est prêt à toutes sortes de choses, si jamais c'est artistique. Et finalement, c'est peut-être une des rares personnes normales qu'on ait rencontrées, nous, personnellement.
Bah, j'en souffre. Je rougis, je ne pouvais pas le percevoir au bout du micro. Bon, je ne sais pas, mais je voudrais bien être normal. Enfin, cette normalité... Le chemin reste quand même rude. Hein. Bon, voilà, chaque moment, chaque instant est quand même différent. Il y a eu des hauts, des bas. Même si un spectacle comme l'immédiat, on l'a tourné beaucoup de fois, il fallait toujours retourner quelque chose selon les lieux, selon les endroits. Enfin, je reprécise encore, hein, parce que tous les endroits, tous les lieux sont différents. Et le public aussi.
Alors donc, il y aurait plusieurs versions de l'immédiat.
Alors, l'immédiat, il y a eu, je ne sais plus, 5 ou 6 versions différentes, mais là, je ne sais pas si on parle de l'immédiat. L'homme de Huss, qui est la pièce encore avant, qui a pu jouer aussi à la Villette. Il y a eu les variations comiques qui auraient pu être ça, mais je crois que ça remonte à bien avant, donc je ne sais pas trop en fait de quelle pièce on parle, je ne suis pas sûr que c'est l'immédiat.
C'est pas grave, on peut toujours la connaître. Déjà vous avez un site internet aussi, hein.
Voilà, un site internet un peu fait de manière artisanale avec des coups de main interfamiliaux. On a fait un site un peu vite. Au début, on voulait surtout ne jamais avoir de site et rien. Moi, je voulais avoir aucune image, le moins d'images possible. Puis en fait, on n'a pas réussi. Donc, il restait que les images qu'on n'arrivait pas à effacer. Donc, on a fini par faire quelque chose pour contrer les choses qu'on voulait pas montrer. Donc, pour montrer des choses qu'on trouvait moins pires que ce qu'on pouvait voir sur nous si on n'avait pas choisi.
Comment donc, si vous n'avez pas le désir de propager la compagnie par l'Internet, comment arriverait-il à être connu par le public ?
Alors c'est un mystère, mais moi je trouve que on a une extraordinaire contre-force à Internet, qui est complémentaire évidemment, mais c'est le présent partagé. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être une chose qui va être de plus en plus importante, alors qu'elle paraît être de moins en moins forte. Et en fait, moi, je pense qu'elle va être de plus en plus importante. Le moment, justement, de se rassembler tous au même endroit, d'être les uns à côté des autres, de sentir le souffle des autres et de sentir qu'il se passe quelque chose dans le réel, dans ce vrai réel, avec la peur pour quelqu'un quand il est suspendu au-dessus du vide, la vraie peur de se dire, mince, il peut vraiment lui arriver quelque chose à lui pour de vrai. Et donc, ce sens de ce réel très sensuel, sensible, qui est l'inverse de l'écran, je pense qu'il aura de plus en plus d'importance. Donc peut-être qu'aujourd'hui on n'aura pas trop le choix que de communiquer aussi avec la force extraordinaire du réseau, mais je trouve ça génial que nous on puisse continuer à être comme faire vivre encore cette chose qui est purement vivante, du spectacle vivant.
Tout à l'heure, vous parliez d'une compagnie inclassable dans certains domaines de l'art vivant. On peut penser... Moi, j'ai pensé à ce spectacle de la Villette, à du clown. Est-ce qu'il y a aussi du théâtre ou même du cirque, peut-être ?
Alors, du cirque, il y a le vertige. Du théâtre, il y a l'écriture, je dirais, ou en tout cas un désir de d'écrire quelque chose qu'on ne connaît pas, enfin d'inventer. Et puis après, du clown, il y a quelque chose, mais alors c'est assez étrange, c'est-à-dire que c'est pas les traits, c'est juste presque le public. C'est le public qui fait la partie clownesque de ce travail. Il y a rien qui dit que c'est drôle à part les spectateurs qui rient. Et puis après, voilà, il y a aussi, je pense que dans le dernier spectacle qu'on a fait, on a fait une chose énorme avec une gigantesque scène qui joue elle-même la scène. C'est la scène qui joue finalement. Et en fait, là, on jouait plutôt dans les festivals de danse où il y avait vraiment une chose comme ça de la chorégraphie de cet espace en train de bouger, en train de se défaire. Donc je dirais que oui, moi j'aime bien le fait que ça soit inclassable. En tout cas, on essaye de rester libre de tout cadre. Donc de sortir au maximum de la chose qui pourrait nous obliger à faire toujours la même chose.
Et ces choses que vous faites, sont-elles faites pour tenir ?
Pour tenir sur le long terme, vous voulez dire, ou tenir...
Ou même un bref instant ?
Elles sont faites pour tenir aux autres, à la sensibilité, à la fragilité. Elles sont faites pour être instables, mais pour tenir dans le sens, tiens, il me reste quelque chose quand je sors de là. Donc on essaye effectivement d'avoir des choses qui aient une forte récurrence. Donc il y a une profondeur, et puis il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'instant. Donc ça se consume, ça disparaît, il n'y a plus rien, mais en fait il reste une trace profonde. Donc je dirais c'est fait pour tenir au corps, pour tenir un peu à l'âme, pour tenir aux autres.
Pour les interprètes, il y aura bien sûr quelque chose qui tient... Enfin, je parle au nom de moi, donc je me souviendrai beaucoup plus de moments présents, que ce soit dans l'immédiat, la conférence, que dans beaucoup d'autres, que dans d'autres choses, en jouant. Donc oui, donc ça tient, et je pense que c'est un peu la même chose pour certains spectateurs. Enfin moi, dans les retours que j'écoute, bien sûr, hein, ça dépend des moments. Il y a parfois c'est mieux, parfois c'est moins bien. Je ne sais pas si ça correspond à une réponse à ce que vous demandiez sur le mot tenir. En tout cas, moi, juste en tant qu'interprète, oui, ça, il y a quelque chose qui en mémoire, en souvenir, auquel je m'en souviendrai, surtout dans l'immédiat, par exemple, qui a beaucoup tourné, dans des moments où j'étais dépassé, ou dans des moments où même je peux rigoler, même sur scène, et c'est très difficile de me retenir.
La conférence qui est présentée telle pour la jubilation, qu'est-ce que vous avez à dire sur la notion de la conférence ? Est-ce que c'est une chose qui est en perte de vitesse actuellement, ou alors elle serait à développer, ou elle se développe de plus en plus ?
Moi, j'ai l'impression que c'est une forme qui existe depuis tellement longtemps et qui va continuer à exister toujours, parce que c'est, disons, en tout cas, l'occasion d'avoir, de se consacrer entièrement, essayer de cerner, ou en tout cas de suivre quelque chose, enfin de définir, d'aller au plus profond de quelque chose. Donc c'est essayer d'aller au plus profond de quelque chose. Enfin, ça c'est ma sensation à moi. Et puis en fait ici, en fait, comme on parle de la jubilation, on peut pas la soumettre à une case. Donc on peut pas la soumettre à une manière de penser préétablie. On est obligé de définir la jubilation avec les outils de la jubilation. Donc finalement, on ne pourrait pas faire une conférence sur la jubilation sans faire vivre directement ce que c'est que le jeu, l'instant, le rythme. Et donc en fait, je dirais qu'on a essayé de faire le plus classique qu'on peut, mais sur un sujet qui ne peut pas rester classique. Donc je ne sais pas si la conférence en elle-même pourrait être le sujet d'une conférence. On pourrait faire une conférence sur les conférences, je trouve ça intéressant. On pourrait vraiment se poser la question de ce que c'est qu'une conférence, et puis ça pourrait donner lieu à une conférence, par exemple, ça pourrait m'intéresser. Mais c'est toujours quelque chose comme ça qui m'intéresse, moi. C'est que je me dis qu'est-ce qui peut être son propre manifeste, c'est-à-dire je dirais qu'à chaque fois qu'on fait une œuvre, il faudrait que l'œuvre définisse ce que c'est que cette œuvre. Et donc voilà, il y a une chose un peu comme ça. Peut-être que toutes les œuvres qu'on a faites sont des tentatives de conférence à leur endroit de ce qu'elles veulent dire, même si parfois on ne dit pas un seul mot. C'est que des gestes et des événements.
Comme diraient certains conférenciers de la Sorbonne, par exemple, ils présentent leurs travaux à titre provisoire. Hein, c'est-à-dire que c'est sans cesse en évolution et aussi de nouveautés selon les recherches. C'est un peu comme vous, donc.
Moi, je trouve ça très beau de présenter provisoirement ce qui est en train d'avoir lieu et l'état même du mouvement de la recherche.
Ça n'a peut-être rien à voir, mais je me rappelle de deux anecdotes. Là, j'avais vu un documentaire il y a 10-15 ans sur les conférences. Donc il y a eu une conférence avec des écrivains, des surréalistes sur Antonin Artaud, et je ne sais pas pourquoi Antonin Artaud ne pouvait pas rentrer dans ce théâtre. Il était à l'extérieur. Voilà, il revenait de l'hôpital et tout ça. Donc ils ont fait une conférence. Mais ce qui est extraordinaire, ils ont parlé de lui, un hommage, mais il ne pouvait pas rentrer. Il était extérieur dans la rue, il errait et tout ça. Donc c'est intriguant. Enfin, je trouve que c'est beau. Et dans la deuxième, c'est lorsqu'il était là à parler, à faire une conférence, et ça s'est très, 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 très mal passé. Je crois qu'il s'évanouit, il disait... Ça serait intéressant de... Enfin, je trouve que c'est beau. Dans ces conférences, quand même, ça devait être quelque chose pour l'époque. Mais il fallait être là, au bon moment.
Donc... En fait, peut-être qu'il y a quelque chose d'assez honnête là-dedans, dans le fait de se dire que la chose est provisoire, parce que même quand elle est la plus ficelée qu'elle peut, 10 ans après, elle n'a plus le même sens, n'a plus les mêmes implications, plus les mêmes références. Si on a découvert tel nouvel événement, en fait, ce qui se disait de manière presque sûre d'elle-même est complètement discrédité. Donc finalement, c'est provisoire quoi qu'il se passe. Ça serait hypocrite de penser que qu'une chose puisse être permanente.
Et puis dans une conférence, il y a la conclusion ou la chute, c'est selon. La chute que j'avais vue donc, sur ce personnage, l'homme de Huss, ça serait pas à ce niveau-là la chute aussi?
Alors la chute de l'homme de Huss, si je me souviens bien, je ne sais pas exactement...
J'avais souvenir que c'était casse-cou comme un main pour le comédien, il me semble.
C'est possible. En général, c'est vrai qu'il y a plutôt des choses qui se passent assez gravement, mais... je me demande, je ne sais pas trop quelle est la référence, parce que l'homme de Huss, c'est le premier de tous les personnages. Ah oui, peut-être que, je ne sais pas, vous parlez peut-être de celui où il tombe en arrière sur le dos et bam, on entend un grand bruit. Non, ce n'est pas celui-là. Non, ça doit être une autre chute. Mais en fait, nous, normalement, on est bon en chute, mais à la radio, ça ne se voit pas.
Ça fait aboyer les chiens, en tout cas. Ce spectacle, donc, vous allez le présenter à ce théâtre après une résidence. Vous le présenterez dans d'autres occasions autour du Diwa prochainement.
Alors on nous a fait une proposition à côté, mais pour le moment on le diffuse plutôt un peu partout. Et c'est aussi un moment où on va reprendre du temps sur ce spectacle-là pour le jouer. Donc là, on a plusieurs dates qui sont en train d'arriver. Et on aimerait bien aussi le jouer dans différents contextes, pas seulement dans les théâtres. Après, là, on entame une grande collaboration avec le théâtre ici. Donc on va revenir plusieurs fois aussi pour d'autres œuvres. Mais disons que la conférence, en tout cas, on va essayer de la diffuser autour. Je sais qu'il y a quelqu'un qui nous a proposé.
Camille et Pascal, vous pourriez peut-être nous parler aussi de ce qui vous a amené dans le monde du spectacle vivant.
très difficile.
Oui, des personnages. Il y a certainement des personnages. Tout à l'heure, vous citiez Artaud. Est-ce qu'il y a des personnalités qui vous ont marqué et qui étaient dans le domaine du spectacle vivant?
Ces choses-là évoluent, peut-être ce qu'on appréciait, on ne savait pas qu'il y avait d'autres choses. Moi, j'apprécie maintenant plutôt ce qu'on appelle la poésie, quoi, de différentes époques, tout ce qui est écrit ou les nouvelles, et donc pas forcément, effectivement, les pièces de théâtre, pas forcément. Mais le monde est bousculé, a changé, il y a aussi des metteurs en scène extraordinaires qui font d'autres choses, enfin tout se mélange. Je pense que maintenant, il faudrait arriver, même dans les questionnements, dans les questions que le son pose, peut-être de plus parler d'étiquette, qu'importe ce qu'il y a, il y a un spectacle, cirque, théâtre, danse, tout ça peut fusionner. Je pense qu'il faut surtout être au bon endroit, au bon moment. Comme là, il y a du grand théâtre. Là, depuis que je suis dans le théâtre, là, avec ce groupe-là qui est à côté, qui sont souvent entourés de chiens, tout ça, il y a des moments, ils prennent un bel espace dans cette petite ville.
Mais c'est vrai que le spectacle vivant et la vie, il faut qu'ils se lient. C'est-à-dire que parfois, les choses sont un petit peu séparées. Et puis en fait, juste il suffit d'ouvrir une porte et puis on voit que c'est le même endroit. Nous, on a souvent joué en fait dans des endroits et puis on ouvrait la porte, puis il y avait la rue derrière et les gens voyaient la rue et d'un seul coup, c'est un spectacle et c'est à peu de choses près.
Oui, voilà, j'ai un grand souvenir, par exemple, dans l'immédiat qui se joue au Brésil, il y a une grande porte qui s'ouvre au fond. Moi, je vais faire un tour pour les poubelles avec un balai où j'apparaissais. Mais le problème, c'est qu'il y a un policier du Brésil qui m'a suivi parce qu'il m'a voyé courir, il s'est passé quelque chose. Et il est rentré, il m'a suivi. Et le public brésilien a reconnu un policier. Et puis tout le monde a rigolé. Il est parti discrètement. Mais c'était vraiment très beau de vivre ce moment-là, qui était unique.
Et moi, j'ai l'impression que c'est la vie même. C'est-à-dire que moi, personnellement, le rapport au spectacle vivant, c'était qu'en fait, je me suis aperçu que j'avais du mal. C'est comme si ça sonnait faux dans la vie pour moi quand j'étais enfant. J'avais l'impression que tout était un peu figé, tout était un peu avec des règles. Et la scène, qui pourtant a beaucoup de règles, et ben, en fait, ça me donnait une impression de liberté, de légèreté, de plus avoir besoin d'être quelqu'un, de plus avoir besoin de jouer un rôle. On pouvait être n'importe quoi, n'importe qui, dans n'importe quel temps. Et moi, c'est vrai que j'ai aimé la scène parce que c'était une sorte de libération du social, d'un poids qui était un poids que j'arrivais pas à porter, je ne comprenais pas pourquoi je devais le porter. Et donc finalement, j'ai vécu ça avec beaucoup de gens. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils ressentent la scène, et je parle pas du désir de la scène, mais vraiment la scène elle-même, souvent c'est très beau, on a l'impression de se rencontrer plus en profondeur, et je trouve que c'est un endroit extraordinaire. Et moi, c'est pas des œuvres ou des personnes qui m'ont inspiré ça, c'est vraiment de rencontrer cette chose directement, donc sans aucune référence, mais vraiment par ça. J'ai l'impression que Pascal aussi, c'est parce que d'un seul coup, quand il était sur scène, enfin moi c'est la sensation que j'ai eue, c'était tout à fait naturel pour lui d'être à cet endroit-là. Son rythme, sa liberté, son originalité pouvaient être des forces, alors que socialement, c'était peut-être des choses plus étranges, plus différentes. En fait, cette différence en dehors de la scène, quand elle est sur la scène, elle est essentielle. Voilà, la vie rentre dans la radio. On a ouvert une porte, il y a eu un téléphone, on a fait cliqueter des pages. Et puis, moi je trouve ça très bien dans l'émission.
Vers 4h30, c'est bon ?
Moi je l'aurais pas coupé, ça.
Ouais, à partir de 11h jusqu'à 18h en principe.
Sauf que vous avez d'ailleurs une très intéressante voix.
Ok, allez, je te laisse, à plus.
Ça c'est quelque chose quand même.
Là, un bel exemple de situation due aux aléas. C'est ce dont vous nourrissez les spectacles aussi.
En fait, on a rencontré quelqu'un qui est pas là ici. Elle est cachée de l'autre côté, mais qui a pas parlé ici, mais qui depuis 3 ans est dans la compagnie. Et elle, ce qu'elle préfère dans les spectacles, c'est quand le vrai surgit. Et donc elle adore quand il y a un vrai problème, quand on voit vraiment le visage de quelqu'un qui était en train de jouer, puis d'un seul coup il se retrouve lui-même au milieu des autres. Elle trouve ça très touchant et très beau. Par exemple, elle trouve ça formidable quand les acteurs ont un fou rire. Donc tout ce que les metteurs en scène essayent de se parer, enfin tout ce dont, non, j'arrive plus à le dire, tout ce que la plupart des metteurs en scène essayent d'éviter, elle le trouve presque le plus précieux, le vrai qui surgit au milieu du faux et qui d'un seul coup fait qu'on se retrouve dans la vraie situation dans laquelle on est, nous assis en train de regarder des gens en train de jouer quelque chose. Et je dirais que la compagnie, elle a déjà cette sensibilité-là, mais ça augmente encore. Donc oui, je pense qu'on va aimer de plus en plus ça. Assumer exactement qui on est au moment où on l'est et qu'est-ce qu'on est en train de faire.
C'est cela.
Eh bien, Camille et Pascal, je vous remercie tous les deux de nous avoir donné un peu de temps pour ce spectacle, donc Jubilation, qui sera joué mercredi 15 janvier. À quelle heure ?
Ah bah ça, je vais poser la question à Dorian. À 20h, c'était facile, 20h.
À 20h. Eh bien, je vous souhaite tous les deux une bonne soirée et à bientôt.
À bientôt.
À bientôt, merci.
Il faut faire attention parce que des fois on commence un tout petit peu en avance.
Interview.
Okay, the bird.